autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour et bienvenue, une fois n'est pas coutume, sur une scène de crime, pour y mener l'enquête avec des archéologues. Pourquoi et comment mettre leurs compétences, acquises sur tous les terrains archéologiques du passé, leurs techniques de fouille et d'identification des restes humains au service de la résolution d'enquêtes criminelles bien actuelles? Comment développer cette archéologie médico-légale, cette archéologie forensique qui a fait ses preuves dans les pays anglo-saxons, aussi bien dans les enquêtes judiciaires, dans les crimes de sang que les crimes de guerre, voire au cœur même des catastrophes pour la recherche et l'identification de disparus? Le premier colloque interdisciplinaire archéologie et enquête judiciaire a eu lieu en 2020 au tribunal de Paris à l'initiative de nos invités, les archéo-anthropologues Patrice Georges et Élodie Cabot de l'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive. Nous vous proposons de réécouter, chers amis auditeurs, cet entretien croisé, parfois bouleversant et toujours stupéfiant, autour de la question pourquoi des archéologues sur les scènes de crime. Voici une des réponses apportées par la doyenne des juges d'instruction du tribunal de Paris, Sabine Kéris, à l'issue de ce colloque archéologie et enquête judiciaire.
J'avoue que à partir de lundi où je reprends mes fonctions, je ne verrai plus les scènes de crime de la même façon que je les ai vues jusqu'à vendredi dernier. C'est-à-dire surtout les scènes de crime où il y aura des corps enterrés, des squelettes. C'est en regardant hier une image où je me suis dit, oui, il y a deux sortes de cadavres. Il y a le cadavre qui est pour le médecin légiste et puis il y a le squelette. Et le squelette, il est pour l'archéologue. Et je pense qu'à partir de lundi, j'aurai ce réflexe de me dire, attention, un squelette, une levée de corps, les services d'enquête, c'est très bien, mais attention, que ferait l'archéologue? Et si c'est possible, je dirais, espérons qu'il y ait un archéologue pour venir sur place.
Voilà qui est dit par Sabine Kéris, doyen des juges d'instruction au tribunal de Paris. Bonjour Élodie Cabot.
Bonjour.
Bonjour Patrice Georges.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de cette question de l'archéologie forensique, de la place des archéologues et des anthropologues que vous êtes sur les scènes de crime. Patrice Georges, vous êtes donc archéo-anthropologue à l'INRAP et expert près de la cour d'appel de Toulouse et des services d'enquête. Vous êtes à l'initiative de ce colloque de l'INRAP, une première, qui a rassemblé tous les acteurs de ce qu'on appelle les sciences forensiques, médecins légistes, policiers, gendarmes et magistrats et archéo-anthropologue, parce qu'il s'agissait de partager preuves à l'appui, j'ai envie de dire, l'efficacité de vos méthodes archéologiques pour retrouver des corps, fouiller une fosse, mais aussi reconstituer des restes calcinés, car vous avez développé une expérience, une approche, une technologie en archéologie pour retrouver, analyser et identifier les restes anciens qui se révèlent particulièrement utiles aujourd'hui sur les scènes de crime déjà envahies par d'autres scientifiques.
Voilà, j'ai presque envie de dire, vous avez tout dit. Alors évidemment, on va pouvoir développer un tout petit peu. Effectivement, alors c'était très sympa de mettre le son de Madame Kéris parce qu'elle était co-organisatrice du colloque à l'initiative de l'INRAP. Et c'était un message fort parce que vous avez le doyen des juges de Paris, donc du tribunal de Paris, qui en fait se rend compte que la spécialité de certains archéologues, donc ceux qui ont une formation en anthropologie, qui connaissent les os humains, peuvent être essentiels à l'enquête. Alors, ce n'est pas forcément les os anciens, puisque en fait, cette formation d'anthropologie nous a fait travailler, Élodie, comme moi, et comme bien d'autres collègues de l'INRAP, sur les ossements humains, qu'ils soient vieux ou récents. Et c'est un peu cette technicité qu'on apporte sur la scène de crime.
Et d'ailleurs, Madame Kéris, le doyen des juges d'instruction au tribunal de Paris, c'est à vos côtés, Patrice Georges, qu'elle a, au fond, découvert cette discipline, en tout cas, ces capacités-là qui apportent autre chose sur une scène de crime.
Oui, tout à fait. Alors, elle avait déjà travaillé avec des anthropologues. Donc, il y a un peu... Le travail peut être partagé en deux étapes. Il y a une étape de terrain, où là, on va être plutôt dans le terme plutôt d'archéologie. Et puis, vous avez une étape de laboratoire que Élodie développe énormément avec un collègue à elle qui est médecin légiste, lui, pour sa part. Et elle avait découvert un peu l'aspect terrain qu'elle ne connaissait pas. Évidemment, quand les individus morts arrivent à l'état de squelette, ils sont dirigés vers des anthropologues ou des médecins légistes qui ont une qualification en anthropologie. Mais il y avait toute cette part de travail de terrain, qui est en fait un peu l'essentiel de notre métier, puisque nous, notre raison d'être, c'est d'aller quand même sur le terrain et de faire des découvertes pour tout ce qui est phase de recherche. Et ça, évidemment, c'était un peu la nouveauté qu'elle rencontrait, qui est une nouveauté pour elle, hein, mais qui est évidemment le travail quotidien des archéologues. À l'heure où je vous parle, on a des collègues qui, actuellement en France, sont en train de faire des phases de recherche pour savoir si des vestiges sont présents dans le sol.
Et oui, c'est ça. Quand on recherche des corps du passé, on peut aussi rechercher des corps aujourd'hui, notamment en cas de crime. Élodie Cabot, alors où vous êtes également archéo-anthropologue à l'INRAP, expert près de la cour d'appel de Rennes, et vous travaillez dans tout le Grand Ouest. Vous avez, Élodie Cabot, fait vos armes, j'ai envie de dire, vos preuves et votre réputation d'archéo-anthropologue en fouillant les charniers de la première guerre de Vendée au Mans. Ça date de 1793. Vous collaborez, Patrice Georges l'a dit, officieusement et officiellement avec un médecin légiste au CHU de Nancy pour résoudre des scènes de crime. C'est un peu le même travail, si j'ose dire, quand on exhume des charniers très anciens et quand on recherche ou qu'on travaille sur des os beaucoup plus récents.
Alors effectivement, c'est un peu la même démarche à partir du moment où on est dans la phase de terrain, comme l'évoquait Patrice. C'est-à-dire que les squelettes soient récents ou anciens, hein, donc crime récent ou crime ancien en l'occurrence pour les charniers du Mans, fait de guerre d'ailleurs. Évidemment, la technique de fouille peut être exactement la même, hein, puisque les vestiges de toute façon voilà, sont les mêmes, donc on va mettre en œuvre les mêmes moyens pour les retrouver. Donc effectivement, oui, c'est cette expérience-là qui permet, si vous voulez, c'est l'expérience en archéologie, en anthropo-archéologie, qui permet ensuite d'envisager des scènes d'enfouissement, donc de dissimulation de corps, hein, parce qu'on n'est pas sur les scènes de crime, hein. Bien souvent, le corps n'est pas présent sur...
Oui, vous le recherchez.
Voilà, il est souvent dissimulé, hein, puisque par l'auteur des faits. Et donc, voilà, on va mettre en œuvre des techniques qui nous permettent, en fait, de retrouver ces squelettes, ces ossements, ou éventuellement ce corps...
Parce que justement, vous collaborez, vous, Élodie, avec un médecin légiste. On pourrait dire quoi? Que quand il y a le corps qui est là, c'est le travail du médecin légiste, hein, en cas de crime. Et quand on cherche le corps, ou qu'on n'a que des morceaux de corps, excusez le corps, c'est le rôle de l'archéo-anthropologue.
Alors ça va dépendre de l'état de conservation, je dirais, du corps. À partir du moment où vous êtes sur du cadavre frais ou plus ou moins frais, c'est-à-dire en cours de décomposition, la présence du légiste est évidemment indispensable, puisque nous, anthropologues, nous sommes spécialisés sur les restes osseux et non pas sur les chairs molles, je dirais. À partir du moment où il y a un début de décomposition et surtout où il y a un enfouissement, enfin, hein, donc c'est-à-dire qu'on va creuser une fosse pour dissimuler le cadavre, la présence, je dirais, de l'archéo-anthropologue est indispensable,
oui, pour
même
fouiller.
Si le corps n'est pas complètement décomposé, c'est-à-dire n'est pas à l'état de squelette. Tout simplement parce que, comme l'expliquait Patrice, le cœur de notre métier, c'est de repérer, hein, des indices au niveau du sous-sol. Et ces indices, ce sont en fait des indices d'une action humaine. Donc, le fait de dissimuler un corps, vous allez modifier le sous-sol. Vous modifiez le sous-sol, vous intervenez, vous creusez, vous déposez un cadavre ou des morceaux, ou voilà. Et ensuite, il va se passer certaines choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des procédés, si vous voulez, pour fermer la fosse, éventuellement dissimuler, etc.
Et ça, vous savez les repérer, voilà. Et contrairement aux médecins légistes ou à d'autres enquêteurs. C'est le cœur de votre métier.
Le cœur de notre métier, c'est, on le rappelle souvent en archéo-funéraire, en anthropologie funéraire, on est là, évidemment, pour fouiller les tombes, les sépultures, mais on est d'abord là pour comprendre les gestes qui ont été nécessaires pour...
Les gestes des vivants, hein, autant parler les morts que les vivants.
Donc, les gestes des vivants, ça va être ce qu'on appelle, nous, les pratiques funéraires, c'est-à-dire que là, on a des vrais rituels funéraires pour honorer nos morts, hein, c'est ce qu'on voit partout, mais vous avez aussi des pratiques funéraires, entre guillemets, en cas de crime et de dissimulation, même si ce n'est pas volontaire. Donc, nous, notre rôle aussi est très important sur le terrain pour voir ces gestes-là, parce que ça a un impact, évidemment, sur l'enquête.
Autour de la question, pourquoi des archéologues sur les scènes de crime? Est-ce que votre travail ne ressemble pas un petit peu à ceux de la série américaine bien connue Bones? Je vais vous poser la question, mais d'abord, juste pour le plaisir, allez, on écoute un petit extrait de Bones.
Les restes sont enveloppés dans un matériau plastique isolant de 4 mm.
Avec du fil armé en PVC.
Le tout lesté. C'est pour ça que le corps n'est pas remonté à la surface durant la décomposition. Le squelette est complet, mais le crâne est en morceaux.
Que pouvez-vous me dire?
Pas grand-chose. C'était une jeune femme qui devait avoir entre 18 et 22 ans. Un peu plus d'un mètre 60, race indéterminée, trait assez délicat.
C'est tout?
joueuse de tennis.
Comment pouvez-vous savoir qu'elle joue au tennis?
La fusion de l'épiphyse donne l'âge, la forme de l'os pelvien, le sexe.
L'inflammation d'une épaule, sur quelqu'un de cet âge-là, ça ne peut être que dû au sport.
Quand est-elle morte? Ça ne me dit rien.
Faut attendre que le spécialiste en asticot jette un œil.
Pas de vêtements.
Dans mon métier, pas de vêtements, ça veut souvent dire crime sexuel.
Dans mon métier, pas de vêtements, ça veut dire que la victime préférait les fibres naturelles.
Votre costume, par exemple, survivra à vos ossements pendant plusieurs dizaines d'années.
Prélevez de la vase dans un rayon de 3 mètres, à une profondeur de 10 cm. Votre équipe de l'identification judiciaire peut prendre le plastique et le cordon, on prend le reste.
Je vous ai vu tous les deux, Élodie Cabot et Patrice Georges, faire des gestes, tout comprendre, sourire. Ça vous amuse, mais c'est quand même... Bon, évidemment, c'est peut-être un peu plus rapide hein, comme identification que dans votre métier, Élodie Cabot, mais vous regardez la série Bones hein.
Alors, je vais être honnête, j'ai regardé des épisodes. Je pense que tout anthropologue qui se respecte a regardé. Patrice dit non, mais je ne suis pas persuadée. Non,
malheureusement, je n'ai pas eu cette chance.
Voilà. Après, je suis une fan inconditionnelle de l'écrivain, donc oui. De Cathy Reich, qui écrit en fait des
et qui
romans.
Est elle-même,
qui est elle-même anthropologue. Judiciaire au Canada et aux États-Unis. Donc, pour ce qui est de ces romans, voilà, c'est la perfection même, je dirais, au niveau des méthodes, etc. Il n'y a pas d'erreur. Pour ce qui est de la série, c'est romancé. Par contre, dans l'extrait que vous avez mis, les critères d'âge, etc., sont bons. Oui, on peut donner un âge pour un adulte entre 18 et 22 ans, à partir du moment où on travaille sur certaines fusions osseuses, par exemple. Donc, si vous voulez, même si c'est romancé, c'est quand même basé sur des vraies, je dirais, des vraies méthodes.
Mais ça va aussi vite que ça quand on mène une enquête, quand on recherche un corps, ça peut aller aussi vite que ça.
Quand on est sur un corps squelettisé, hein, donc vraiment voilà, squelettisé complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de procéder à un nettoyage des ossements, oui, ça peut aller très vite pour la première identification. L'âge, le sexe de l'individu, vous avez un anthropologue sur place, il peut vous le faire dans les 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Il ne sera pas extrêmement précis pour l'âge parce qu'après, il faudra regarder des critères plus finement. Mais on peut déjà avoir une bonne idée, si vous voulez, de l'individu. Si les ossements sont bien conservés, etc. Oui.
Patrice Georges, oui.
Moi, je voulais vous dire, il y a un petit passage, je ne sais pas si c'est l'anthropologue, il m'a dit « je ne sais pas ». Donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a plein de fois où on ne peut pas forcément se prononcer. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans l'extrait aussi, c'est le fait que vous avez plein de spécialistes. Alors après, on peut penser ce qu'on veut de leur interprétation.
Mais il y a quoi en fait ? Il y a un médecin légiste, il y a un archéo.
Vous avez un spécialiste des tissus. Vous voyez, bon, on est dans une série américaine, où vous avez toutes ces spécialités-là qui sont représentées. Mais effectivement, en fait, l'idée pour nous, c'est qu'on est rarement tout seul. Alors nous, on a un geste, on a une action très technique à apporter, celle de retrouver le corps et de le fouiller, et puis après aussi le travail sur les ossements à proprement parler. Mais en fait, on est en interaction avec d'autres spécialistes. Élodie l'a dit, quand le corps est en cours de décomposition et que vous avez encore les parties molles, évidemment il y a le travail d'échange avec le médecin légiste qui est absolument essentiel hein, puis c'est quand même lui le spécialiste de la mort en quelque sorte. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse ou que votre cas d'étude en fait vous oriente vers certaines pistes, vous avez d'autres spécialistes qui peuvent entrer en jeu. C'est jamais en fait un travail isolé hein, on est au sein d'une enquête et ça fait intervenir plein de spécialistes.
Et vous voulez, Patrice Georges, aussi, non seulement que cette spécialité donc, d'archéologie forensique ou d'archéologie de médecine légale soit reconnue officiellement, véritablement, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, parce que vous voulez aussi être appelé dès le départ. Pourquoi c'est si important que l'archéologue soit présent tout de suite ou dès le début des fouilles? C'est vrai que vous êtes spécialiste des fouilles, mais pourquoi c'est si important?
Alors ça serait vraiment dans un monde idéal et c'est ce vers quoi on tend. Hein. C'est la raison pour laquelle on a fait ce colloque et puis qu'on est là devant vous, parce qu'on prêche en fait, hein. on est des prêcheurs de la discipline. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans beaucoup de cas, en fait, vous allez en fait trouver des vestiges archéologiques. C'est-à-dire que dans toutes les découvertes d'ossements humains, la plupart du temps, et heureusement, hein, parce que ça voudrait dire qu'on aurait des centaines de meurtres tous les ans.
Ce sont des vestiges.
Ben oui,
ossements
la plupart
anciens,
du temps, on
des
trouve des ossements humains. Donc, vous avez, par exemple, un monsieur qui fait du jardinage, il tombe sur un os. Est-ce que cet os-là est humain ou est-ce que c'est un os animal? S'il est humain, il part dans un laboratoire souvent et on détermine que c'est un ossement qui est très ancien. Et en fait, vous êtes là sur un site archéologique. Ça, tout ce procédé-là, c'est-à-dire de faire intervenir des gendarmes, souvent c'est en milieu rural, et de faire d'envoyer l'os dans un laboratoire, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Alors que si vous faites venir un archéologue tout de suite, il va voir, selon le contexte de découverte, que vous êtes déjà sur un site archéologique.
Et
pourquoi
oui.
Parce que vous aurez des tessons, vous aurez d'autres indices.
Ah oui, vous allez tout de suite le repérer. Évidemment.
Bah oui, là c'est
en fait, c'est
en même temps, voilà, c'est pas très compliqué pour nous, puisque c'est là-dessus qu'on a été formé, c'est sur ce sur quoi on travaille. Et puis évidemment, après, bah, nous, on a été habitué à fouiller, donc on va y passer beaucoup plus. beaucoup moins de temps que quelqu'un qui n'aurait jamais fouillé. Et je dis souvent, si vous voulez, trouver, c'est presque pas compliqué. Dès lors que vous savez que le corps est dans une parcelle, vous donnez les bons outils à n'importe qui, il va trouver le corps. Nous, c'est pas tant trouver, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de documenter. En fait, c'est ce que disait Élodie un peu sur les gestes. C'est que nous, on a envie de comprendre ce qui s'est passé et documenter la façon dont le corps a été enfoui.
C'est-à-dire, en fait, il faut trouver, mais trouver sans rien bouger ou documenter
exactement,
tout ce qu'on bouge, c'est ça.
Exactement, exactement. En fait, on dit souvent que fouiller, c'est détruire. Alors nous, on détruit la scène de crime, mais on la détruit scientifiquement. Bah, comme un site archéologique, on le détruit, mais on va le documenter au fur et à mesure. Et on va se donner les moyens, si vous voulez, on va enlever les eaux de terre, mais tout ça sera fait dans une série d'étapes qui permettront après de reconstituer tous ces gestes.
Mais oui, parce que si vous arrivez à reconstituer des restes très anciens et à comprendre ce qui s'est passé, à imaginer les gestes des vivants, vous pouvez imaginer les gestes des vivants exactement. Plus proches de nous. Autour de la question pourquoi et comment des archéologues sur les scènes de crime, cette fois-ci c'est autour d'une de vos collègues de l'INRAP, Valérie Delattre, elle est spécialiste, celle de l'archéologie du handicap, de vous poser la question, on va dire, directement.
Bonjour Patrice, c'est Valérie. Je ne vais pas te parler d'archéologie du handicap. J'aurais une question à te poser qui nous préoccupe tous, anthropologues, parce qu'à un moment de notre carrière, on s'est interrogé sur l'aptitude qu'on aurait chacun à travailler sur des cas extrêmement récents. Fouiller des charniers, ce n'est pas anodin. Fouiller des squelettes extrêmement contemporains, ça n'est pas anodin. Travailler pour retrouver les restes ou le squelette d'une enfant disparue, on a tous en tête des exemples récents, c'est quelque chose de compliqué. En archéoanthropologie, on met une distance, celle du temps et celle de la décomposition d'un corps. Que vas-tu puiser au fond de toi pour avoir cette force incroyable et cette espèce d'énergie qui te permet de répondre à des attentes qui sont effectivement judiciaires, policières, mais qui émanent aussi de parents?
Comment vous faites, Patrice Georges?
Alors bon, je vais pas faire le fanfaron, hein, parce que effectivement, comme on vous l'a dit, des fois les corps sont pas complètement décomposés, donc il y a tout ce rapport là à la décomposition et puis aux odeurs. Voilà, écoutez, moi j'ai évidemment, comme tous les anthropologues, on a longuement réfléchi à ces questions là. Moi, il s'avère que j'ai pas de relation, j'ai pas d'affect pour le moment. Ça me, alors je dis pas que ça ressortira pas plus tard. Hein, le psychisme est fait de, enfin voilà, de telle sorte que ça peut ressortir des années plus tard. Bon, j'ai pas non plus fait 10 000 cas, hein, parce que malheureusement, on est souvent employé sur des zones de recherche et malheureusement on ne trouve pas. Mais le fait est qu'on est sur des dossiers où on a des visages, on a des noms, on a des histoires, on a souvent la dernière partie de la vie qui est malheureusement tragique, hein, dans les cas où on nous emploie. Moi, j'ai pas, je vais pas vous dire que j'ai une force incroyable. Il s'avère que
vous arrivez à mettre la distance.
Ouais, en fait. Je pense qu'en fait le fait qu'on se concentre sur une tâche très très technique et qu'on attend de nous vraiment une certaine tâche, ça permet d'évacuer. Et le fait est que j'y repense pas tellement après.
Vous m'avez tout de même fait remarquer, hein, Patrice Georges, que souvent quand vous recherchez des corps, ce sont souvent des corps de femmes.
Oui, je dis souvent,
par des hommes. Hein,
oui, c'est ça, malheureusement, hein, on parle en ce moment de féminicide. Moi, je dis dans la thèse, justement, on en parlait avec Élodie. Je travaille un peu sur ces questions-là dans une thèse de doctorat et je dis le fait que le victime soit féminin, ça tombe plutôt pas mal. Alors c'est un peu ironique, mais effectivement, la plupart du temps, c'est quand même des femmes, hein, qu'on recherche dans le cas de crimes sexuels ou liés à des problèmes comme ça. Ouais.
Élodie Cabot, comment vous faites, vous, pour avoir aussi cette distance, voire parfois, j'imagine, l'estomac, comme on dit, bien attaché, et puis les émotions aussi qui peuvent surgir. Comment on fait?
Alors, je dirais un petit peu comme Patrice, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de difficultés, je dirais, avec ça. Alors, effectivement, on est obligé de garder une certaine distance, hein, par rapport aux cas récents, puisque, à la différence de l'archéologie, vous avez des photos, vous avez des images, et vous pouvez mettre un visage, en fait, sur un os, entre guillemets. Hein, c'est vraiment la grosse, grosse différence, plus l'état de décomposition. Hein, et le plus difficile, c'est l'odeur, dans certaines conditions. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des choses un petit peu compliquées au départ, quand on débute. Après, je dirais que quand on intervient sur des affaires un petit peu complexes, comme ça, justement, avec découverte ou recherche de corps, on n'est jamais tout seul. C'est le cas en archéologie, Patrick l'a rappelé, on est toujours une équipe avec différentes spécialités, des techniciens derrière nous. Voilà, on n'arrive pas, nous, l'anthropologue, et on va tout résoudre. C'est exactement la même chose pour le judiciaire. C'est-à-dire que vous avez une équipe avec vous, vous avez les enquêteurs, vous avez des techniciens de la police scientifique, etc. Donc, le fait d'être, je pense, une équipe aussi, ça permet de relativiser. On est tous là dans, avec un seul objectif, en fait, quelque part, c'est de soit retrouver un corps, soit de retrouver des éléments pour éventuellement à charge ou à décharge, hein, par rapport au cas de figure. Et du coup, voilà, vous allez focaliser plutôt, je dirais, sur l'enquête, sur la recherche, sur l'aspect vraiment scientifique, en fait, de votre discipline. Parce et occulter temps... le côté affectif. Oui. Sinon, je dis souvent, parce que c'est une question que je pose aussi à mes étudiants, par exemple, qui veulent débuter en anthropologie. Voilà, je dis attention, si vous vous destinez à faire de l'anthropologie, même dans le domaine strict de l'archéologie, soyez sûr que ça ne vous posera pas de difficultés, puisque vous allez manipuler de l'os humain toute votre carrière quand même. Hein. Donc voilà, ce n'est pas anodin. Donc si vous avez déjà une difficulté avec ça, c'est peut-être mieux de changer de spécialité. Donc voilà.
Mais en même temps, j'ai envie de demander, est-ce qu'on n'a pas une sorte de pression supplémentaire quand il s'agit effectivement de cas judiciaires ? On en parlera aussi, il y a aussi des charniers, il y a aussi de la recherche de victimes de guerre, même au cœur des catastrophes. Enfin voilà, on a quand même là, j'imagine, une responsabilité ou une pression plus forte que quand il s'agit de fouilles plus anciennes où c'est extraordinaire et fondamental pour notre connaissance à nous, mais il y a moins d'effets.
La pression, là, Patrice. J'ai souvent, en plus, en archéologue, la pression, on préfère la boire que la prendre, si vous voulez. Ça, c'est le,
merci
c'est
le gros, pour le dicton archéologique.
C'est, voilà, ça, c'est le grand truc des archéologues. Mais c'est-à-dire qu'on est habitué à travailler sous pression parce que, déjà, sur les contextes archéologie classique, nous, on travaille dans l'archéologie préventive. Donc, c'est cette archéologie qui intervient avant qu'il y ait destruction par les travaux. Donc, on a des temps très contraints. On travaille, quelles que soient les températures, les aléas climatiques, etc. Donc ça, la pression, on la gère. Dans ce cas-là, non, on est quand même pareil. Que peut-être que la charge émotionnelle, elle est peut-être diluée par le nombre d'intervenants. Et puis, on a notre rôle à jouer et peut-être qu'on arrive à tenir la pression comme ça.
Autour de cette question, pourquoi des archéologues sur les scènes de crime ? Allez, une petite réponse de Boris Vian dans la voix de Reggiani sur RFI. Arthur, où t'as mis le corps ?
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
sa cloche, c'est pas où il est passé.
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
S'écrièrent les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là.
Ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
Et voilà, Arthur, où t'as mis le corps, Sergio Reggiani, sur RFI. Et pour le retrouver, le corps, on a besoin aussi des archéologues comme vous, Élodie Cabot et Patrice Georges. Je rappelle que vous êtes tous les deux archéo-anthropologues à l'INRAP. Autour de la question, pourquoi des archéologues sur les scènes de crime? Pourquoi et comment votre regard, votre approche, votre savoir-faire, votre expérience, vos outils techniques sont indispensables? Je propose d'écouter l'éclairage d'un chercheur, Pierre Piazza, auteur avec le commissaire Marlet de la police judiciaire, qui a d'ailleurs commencé par être archéologue, auteur de La science à la poursuite du crime d'Alphonse Bertillon aux experts. On écoute Pierre Piazza.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est plutôt à travers Bertillon, que je connais un peu, c'est comment finalement sont les plans qu'il fait à partir des photographies métriques de scènes de crime sont des plans architecturaux de l'endroit où le crime a été commis, et comment finalement ce qui intéresse Bertillon, c'est la spatialisation des choses, c'est-à-dire resituer les choses dans un espace pour bien comprendre comment les faits se sont déroulés. Mais l'idée de bien comprendre l'architecture d'un lieu pour resituer exactement le déroulé des faits. Ça, c'est quelque chose aussi qui est proche des archéologues. Et puis, autre chose aussi qui rapproche finalement les origines de la police scientifique avec l'archéologie, c'est le souci de révéler des traces infimes, des indices. C'est l'indice, le regard sur le minuscule, donc c'est un changement de regard pour accéder à la vérité. Et ça, c'est partagé par l'archéologue et le policier scientifique. C'est-à-dire comment, à partir de quelque chose d'infime, on va faire parler un objet, une trace, etc., pour reconstituer le fil et parvenir à la vérité. On est dans les deux cas, c'est la logique est un peu semblable. J'avais fait une conférence avec une archéologue au CNRS et finalement, oui, la démarche logique est exactement la même.
Même démarche, vous êtes d'accord, Patrice Georges? Je voulais réagir à cet éclairage du chercheur Pierre Piazza.
Oui, je suis assez d'accord. Alors, je voulais revenir parce que vous avez dit aussi, on a aussi besoin des archéologues pour rechercher les corps. On a surtout besoin des archéologues parce qu'il s'avère que...
C'est ça, pour voilà, cette opération-là.
Pour cette opération-là, parce qu'en fait, il existe quand même des moyens de rechercher les corps qu'on utilise, comme le géoradar ou des chiens qui reniflent l'odeur de décomposition. Mais in fine, la seule façon d'être sûr à 100% que vous ayez un corps, c'est celle d'enlever la terre, de décaper avec un engin mécanique et d'aller retrouver les traces. Et là, on va tomber sur ce que disait le chercheur, là, M. Piazza, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous avez retrouvé la fosse d'enfouissement du cadavre, de lire des choses sur la fosse telle qu'elle a été creusée. Déjà, vous avez une idée de la façon dont elle a été creusée.
Une fois que vous avez, donc, avec du matériel que vous utilisez sur des terrains de fouilles,
c'est ça.
Du matériel, des pelleteuses.
Exactement. Alors, il ne faut pas imaginer, voilà, souvent on imagine des moyens assez incroyables, et peut-être que justement les séries américaines désorientent un peu les gens à ce sujet, parce qu'en fait, il n'y a pas d'outils magiques pour voir ce qui se passe dans le sol. Vous avez un certain nombre d'outils qui existent, qui sont des outils du génie civil, qui sont détournés par l'archéologie, mais l'outil le plus simple, c'est celui de la pelle mécanique, l'engin que vous avez sur les chantiers, à condition de l'utiliser à bon escient, le tonnage, c'est-à-dire la taille de la pelle est adaptée au terrain où vous êtes, et puis surtout d'avoir un godet lisse, souvent vous voyez sur les chantiers, ils ont des godets à dents qui permettent de prendre des gros volumes. Nous, on utilise des godets qui sont lisses et qui permettent de lisser la terre. On enlève une petite couche de terre et en fait, on arrive à avoir une lecture du sol. Et selon en fait,
et vous
tâches,
lisez vraiment le sol,
on lit le sol. Si c'est vous, pas si une vous... image, c'est pas la lecture du sol, elle est effective, c'est-à-dire que vous allez voir là où a été enterré un corps, mais là où était enfoui n'importe quoi, en définitive, vous avez une tache dans le sol qui va être de la forme du trou que vous avez creusé. Et puis après, nous on fouille à l'intérieur de ce trou et vous avez la possibilité de remarquer par exemple d'infimes traces de peinture qui viennent des outils qui ont été utilisés pour creuser ce trou, où vous avez des indices. À un moment, c'est assez simple à comprendre, quand vous creusez un trou et que vous êtes que le trou est assez profond, il y a un moment, l'auteur des faits n'a pas d'autre choix que d'être dans le trou. Il est avec sa pelle. Et donc là, il y a des cas, par exemple, en Angleterre, où ils ont montré qu'il y avait les traces de pas qui étaient en fait sous le corps. Ça, c'est possible à documenter seulement si vous le fouillez de la façon dont les archéologues le font habituellement.
Et le regard de l'archéologue, de l'archéo-anthropologue Élodie Cabot sur comme ça, d'abord pour terrasser, pour fouiller le terrain le plus légèrement possible, j'ai envie de dire, et puis ensuite le regard joue vraiment, ce serait quoi votre regard?
Alors le regard qui est indispensable, c'est déjà d'être capable de reconnaître au niveau de la structure, de la texture du terrain, qu'est-ce qui est naturel de ce qui n'est pas naturel, d'accord ? C'est-à-dire donc avoir une bonne lecture déjà du sous-sol habituel, c'est-à-dire être capable de dire là vous êtes dans de la terre végétale, là vous êtes sur, je ne sais pas moi, du schiste altéré, donc vous êtes sur un niveau naturel, et dans ce niveau naturel, après évidemment ces phases de décapage, on va mettre en évidence des zones qui, elles, ne sont pas naturelles. Donc, si ce n'est pas naturel, c'est que
fait par l'homme.
Il y a une action humaine, une action anthropique. Cette action anthropique, elle est liée soit à ce qu'on cherche, en l'occurrence, une dissimulation de corps, par exemple, soit complètement autre chose. Ça peut être archéologique, ancien, ça peut être une plantation d'arbres, par exemple, donc ce qu'on appelle un chablis, tout bêtement. Et là, l'œil de l'archéologue est extrêmement important, parce que c'est lui qui va pouvoir vous dire, là, vous avez une différence de teinte, mais pas uniquement. Vous avez une différence de texture. Hein. Parfois, la couleur va être la même, malheureusement, même si vous avez une action humaine, et vous n'allez le sentir qu'à la fouille, parce que la terre est plus foisonnée. Hein, c'est-à-dire qu'elle est plus légère à la fouille. Donc ça, c'est vraiment l'expérience et c'est vraiment l'œil. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui est irremplaçable. Enfin, voilà.
Ah, complètement. Sans... Et on se dit, du coup, c'est... on se demande, du coup, pourquoi en France, contrairement aux pays anglo-saxons, pourquoi on ne fait pas un peu plus appel à vous? Pourquoi vous êtes expert auprès de certaines cours et pas d'autres? Enfin, ce que vous avez décidé de faire, pourquoi ça reste très officieux, finalement, parfois, votre rôle? Ou voilà, si vous rencontrez des magistrats, des policiers qui savent l'intérêt, ils vont faire appel à vous, mais sinon, non. Comment ça se fait que la France résiste, entre guillemets, alors qu'on a été, on voyait avec Berthier, on a été assez pionniers hein, dans la police scientifique.
Oui, on a été pionniers, et vraiment en avance sur bien des points. Bon, là, après, il ne faut pas avoir une image complètement négative de la police éthique et scientifique. Ah. Hein, de, par ailleurs,
absolument, qui font du sacrément bon
boulot. Là, je pense que alors, c'est émergent, donc ça commence vraiment à se développer. C'est vrai que, bon, il le dit, peut en témoigner, à chaque fois qu'on intervient ou quelques autres collègues qu'on intervient sur des scènes où on montre notre savoir-faire et l'utilité, bon, les gens prennent s'en conscience rappelle, de l'importance. Et Madame Kéris, voilà, on est la preuve vivante. Hein, c'est-à-dire
oui,
que
la doyenne dit, du tribunal de Paris.
Voilà, je vais voir les scènes de crime d'une autre façon. Peut-être qu'en France, on a, vous voyez, on est très académique et tout est cloisonné. Ils ont peut-être, dans les pays anglo-saxons, ils sont plus pragmatiques, si vous voulez. Alors, c'est assez marrant que ça vienne, par exemple, d'un pays comme les USA où il y a peut-être moins d'histoire. Et que les archéologues ont travaillé sur des contextes beaucoup plus récents. Donc, si vous voulez, le chemin s'est peut-être fait plus facilement. Il y a pas, personne n'a vraiment réfléchi à cette question en ces termes-là. Mais c'est vrai que peut-être plus on
vous range dans la case du passé. Hein.
Si, imaginez que si vous avez affaire avec un archéologue qui est préhistorien, bon, on ne va pas forcément faire le rapport avec une scène de crime. Maintenant qu'on commence à fouiller régulièrement des sites de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on se rapproche, ben voilà, on a un rapport avec la mort où on a encore des descendants, on a des choses, et donc peut-être que ça se fait un peu plus facilement. Mais le fait est que par rapport à d'autres pays, effectivement, on est un peu en retard, on est quand même en avance sur bien d'autres, mais on est en retard. Et aussi, il y a eu des affaires dans d'autres pays, comme l'affaire du trou en Belgique, où là, ça a été des déclencheurs. Si vous voulez, ils ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Alors, il ne faut pas souhaiter que ça soit le cas, mais en France, c'est vraiment sur des affaires, des dossiers très particuliers, où tout d'un coup, ben, on tente d'autres moyens. Et l'archéologie en fait partie.
Et voilà, et l'archéologie fait partie de tous les nouveaux moyens de la police scientifique. On parle beaucoup de génétique et de l'ADN, mais il n'y a pas que l'ADN. Des fois, il n'y a plus d'ADN. Et vous avez développé aussi, alors parfois avec les moyens du bord, et dans vraiment les moyens du bord, une vraie technologie. C'est-à-dire que vous parlez de la pelleteuse, ça c'est tout simple, mais il y a les techniques LIDAR, il y a l'infrarouge, tout ça, ça vient. Enfin, c'est vous qui avez bricolé ça, si j'ose dire, sur le terrain.
C'est pas nous, c'est la communauté des archéologues. Voilà, c'est approprié en fait. Tous ces moyens qui existent à chaque fois pour d'autres choses, et puis qu'on teste dans des contextes archéologiques. Vous voyez, donc il n'y a pas d'outils. En fait, je ne crois pas, en y réfléchissant bien, qu'il y ait d'outils propres aux archéologues, si vous voulez. Même la truelle. Alors, on a fait faire des truelles.
Tout est détourné, voilà. En fait.
Alors, tout est détourné, comme la pelleteuse avec ses dents d'une autre manière.
Exactement. Tout est détourné.
Ça vient du génie civil, ça vient des prospections géologiques. Voilà, on n'a pas de méthode propre. Même si après, même la truelle, qui est l'outil emblématique des archéologues, maintenant, on fait des truelles un peu plus pour l'archéologie. Mais à l'origine, ce n'est pas un outil qui a été inventé pour les archéologues.
Autour de la question, pourquoi des archéologues, justement, sur les scènes de crime, on y viendra aussi, parfois sur les charniers, ou en cas de crime de guerre aussi. Je propose d'inverser finalement la question. Alors, outre le fait qu'on l'a compris, vous êtes très très utile pour la société, pour notre connaissance des sociétés humaines anciennes et puis aujourd'hui, pour résoudre des questions judiciaires criminelles. Qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, qu'est-ce que ça apporte à l'archéologie d'aller sur des scènes de crime? Je propose, avant de vous laisser répondre, d'écouter l'éclairage d'un médecin légiste qui est aussi anatomo et paléopathologiste, que vous connaissez bien puisqu'il a participé à votre colloque en partageant, lui, ses autopsies d'hommes et de femmes célèbres. C'est le docteur Philippe Charnier qui a dirigé aussi, je crois, votre thèse en criminalistique, Patrice Georges, qui était un des deux membres du jury.
Voilà, pas une thèse, mais il a été effectivement co-directeur de mon mémoire.
De votre mémoire de criminalistique. Ouais. En tout cas, il nous apporte son regard de médecin légiste sur un site archéologique.
En fait, il faut lire un site archéologique exactement comme si on analysait une scène de crime, tout simplement. Et les pyramides dont il parle sont exactement comparables à une scène de crime pour laquelle le cadavre aurait disparu. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique en archéologie ? Eh bien, des techniques d'identification de sang altéré, des concentrations de fer, par exemple.
Celles que l'on voit dans les séries américaines ?
Celles que vous voyez extrêmement fantasmées dans les séries américaines et celles qui sont beaucoup plus fastidieuses dans la vie quotidienne des techniciens d'investigation criminelle. En effet, c'est exactement la même chose. Et pourquoi l'archéologie à nouveau est utile ? Parce que quand on revient sur une scène de crime une dizaine d'années plus tard, voire plus, eh bien ça s'est complètement désagrégé, ça s'est complètement altéré. Le sang s'est oxydé, s'est altéré avec les ultraviolets, avec le temps, l'humidité, et on a une désagrégation qui est tout à fait comparable à celle fournie par l'archéologie. Donc l'archéologie est un excellent terreau pour améliorer nos techniques ensuite pour la justice.
Alors, archéologie, on a bien compris, excellent terreau pour le médecin légiste et entomopathologiste qui est Philippe Charlier, mais en quoi ça sert votre discipline, l'archéologie, hein, que ce soit l'archéologie funéraire, que ce soit l'archéologie de handicap ou toute autre forme d'archéologie, Élodie Cambeau ?
Alors, je dirais, en ce qui concerne le terrain, donc l'action vraiment de recherche de corps, etc., ils ne nous sont pas du tout indispensables, enfin, loin de là. Je pense que, comme l'a répété Patrice, nous sommes en France aujourd'hui arrivés à une technicité au niveau de la fouille archéologique avec un système d'archéologie préventive qui est quand même assez unique à l'échelle européenne et je dirais même mondiale malgré tout. Donc on est parti de rien dans les années 60-70 pour arriver aujourd'hui à vraiment une archéologie extrêmement efficace avec toutes les disciplines représentées et une capacité vraiment de découvrir des vestiges et de les comprendre.
Hein, parce qu'il absolument. S'agit pas uniquement et qui de sortir. On peut le dire au passage dans différents pays. Qui à chaque fois qu'il y a des chantiers, voilà. Vous êtes là quoi pour.
On est quand même. Je pense que l'archéologie française peut se targuer aujourd'hui d'être une référence mondiale au niveau de la fouille, au niveau des études, mais surtout au niveau du terrain. Donc sur ce sujet-là, je dirais que le médico-légal ne nous apporte pas grand-chose. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui pouvons être utiles au médico-légal. L'intérêt de la collaboration, en tout cas telle que je la vois en médico-légal, archéologue et archéoanthropologue. C'est d'avoir aussi un échange sur les restes osseux, bien sûr, sur les éventuelles causes de décès. Pourquoi ? Parce qu'eux sont confrontés à des décès généralement violents, malgré tout. Hein, voilà, si en cas d'autopsie, etc., c'est qu'il y a une suspicion de crime, donc c'est qu'on a des traces, etc., qui pour nous sont intéressantes aussi parce que pour les sociétés anciennes, nous avons aussi des morts violentes, même si ce n'est pas la norme et qu'on en retrouve très peu. Et donc, ça permet d'avoir un échange comme ça entre nos deux disciplines et de voir ce qu'il est possible d'en tirer, d'en exploiter par rapport aux vestiges qui nous restent.
Des regards croisés donc autour de la question pourquoi et comment développer l'archéologie médico-légale, l'archéologie forensique. On continue de s'interroger, alors on va aller au-delà même des scènes de crime, sur des scènes de guerre ou à la recherche de disparus dans des catastrophes. À l'écoute d'abord de Cemetery Gates, titre des Smiths de circonstance, morceau choisi par vous Patrice Georges, on vous en remercie.
Dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You say a thrice the sundown salutation to the dawn. And you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. Pros and points, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. There's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. You say London do dust it. Words which could only be your own.
text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. A dreaded sunny day, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose.
Aux portes du cimetière avec les Smiths sur RFI Cemetery Gates. Merci pour ce choix de circonstance, Patrice Georges. Autour de la question de la place justement des archéologues et des anthropologues sur les scènes de crime, mais aussi plus terrible encore dans les charniers pour identifier les victimes de catastrophes ou les soldats disparus. En Irak ou pendant la guerre du Vietnam, aux États-Unis, on l'a dit, l'archéologie forensique est très développée. Il y a même une agence spécialisée dans la recherche de prisonniers de guerre et de soldats disparus en action, Missing in Action, qui compte évidemment dans ses membres des archéologues. La preuve tout de suite dans cet extrait d'un documentaire tourné au Laos.
We are here.
Nous sommes ici pour tenter de retrouver les restes d'un pilote disparu. Je suis le docteur Sarah Kinchou. Ma spécialité en archéologie forensique est la recherche des corps. Nous essayons de localiser un avion de chasse qui a disparu pendant la guerre du Vietnam et dont on a perdu la trace. Il volait en formation dans les nuages avec deux autres avions qui, eux, sont rentrés. Pour retrouver des traces de l'avion et du pilote, chaque membre de l'équipe de recherche a un rôle très précis. Certains creusent, d'autres tamisent et d'autres fouillent à la recherche d'indices. L'idéal serait de trouver un os ou une dent ou n'importe quel fragment que nous pourrions associer au pilote et qui indiquerait qu'il était bien là.
Patrice Georges, vous voulez réagir ? Vous avez vous-même travaillé avec des militaires sur des charniers, notamment ?
Alors, pas sur des charniers à proprement parler, mais on forme des militaires justement dans l'idée qu'ils puissent intervenir sur ces types de fouilles-là. Là, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les États-Unis ont une agence qui recherche les soldats morts de tous les conflits américains depuis qu'ils font la guerre, donc depuis la fin du 19e. Alors, on parle beaucoup du Vietnam. Il y a beaucoup de fouilles comme ça en France, de cette agence américaine-là. Les représentants de l'Europe, d'ailleurs, étaient au colloque. Donc, c'est vraiment intéressant. À la différence près, c'est que leur but n'est pas forcément de comprendre la façon dont l'avion, par exemple, là, dans le cas présent, est tombé, ce qui s'est passé. Eux, ils veulent retrouver les restes et les identifier et puis lui donner les honneurs militaires comme ils savent le faire aux États-Unis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont, les Allemands ont la même chose, et ils vont même fouiller en Russie pour retrouver des restes de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Nous, par contre, en France, c'est quand même assez incroyable, on n'a absolument aucune structure qui gère ça. Alors moi, j'ai eu la chance, grâce à l'Institut National de Recherche Archéologie Préventive, de faire ça en Crimée. Alors, à la demande de l'ambassade de France, j'étais allé identifier des restes de soldats de la guerre de Crimée. Mais, si vous voulez, ça se fait au coup par coup. Alors, il s'avère que dans le cadre de l'archéologie préventive, on traite des sites de la Première Guerre mondiale. Et souvent, des collègues sont confrontés à des tombes de la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Ça pourrait l'être pour la Deuxième Guerre. Mais on n'a pas de protocole, on n'a pas d'institution qui se charge de faire ça. Donc, c'est quand même des milliers et des milliers de soldats français éparpillés sur différents territoires, et notamment on est rentré il y a quelques temps dans un anniversaire pour Dien Bien Phu. Il faut savoir que voilà, au Vietnam, on a encore des milliers de soldats français qui sont là-bas et qu'on ne traite pas en fait.
Et selon vous, c'est quoi ? C'est pas un oubli, mais c'est un,
je sais pas,
un trou à manque dans
question de culture. Mm-hmm. Et puis aussi, vous voyez, on a déjà du mal pour l'appliquer en France dans un cadre judiciaire. Bien alors sûr. Quand on est dans le voilà, il y a une question de mentalité. Ils sont très très. Il suffit de voir les cimetières militaires tenus par exemple les la Grande-Bretagne ou les Allemands en Égypte, vous avez des cimetières qui sont extrêmement bien tenus. Ils font attention à la mémoire de leurs proches. Et puis là, du coup, ça peut-être rejoint une discussion qu'on a eue en micro sur voilà, l'exclusion de la mort. Ça fait peut-être partie aussi de tout ce phénomène où nous, à tous les, dans tous les champs de notre vie, en fait, on écarte la mort. Les gens vont mourir à l'hôpital. On évite d'aller aux funérailles, des choses comme ça. Et ben, eux, ils tiennent à la mémoire des gens et puis au respect des corps morts.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi ça, évidemment. Enfin, vous qui côtoyez, fréquentez, fouillez pour exhumer des corps morts pour diverses raisons, mais aussi pour leur donner une sépulture, un nom. C'est aussi il y a aussi ça dans votre fonction d'archéologue au départ et encore plus d'archéologue en médecine légale.
Je dirais qu'il y a le devoir de mémoire et le devoir de sépulture. Et là, je pense que dans le système justement américain, type aussi anglo-saxon, il y a vraiment quelque chose qui est très différent par rapport au ressenti, à l'affect que nous, on pourrait avoir en France, notamment. Et donc, on voit vraiment que pour eux, le besoin, en fait, d'avoir un lieu de dépôt en fait du corps, puisqu'on sait que le soldat est mort, on sait qu'il est tombé à tel endroit, en l'occurrence que l'avion s'est sûrement écrasé à tel endroit. On va aller faire les démarches pour faire en sorte de retrouver des fragments de ce corps. Pourquoi ? Pour donner un lieu de mémoire, un lieu de sépulture pour les descendants, pour la famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas trop pour la France. On n'a pas cette culture-là, en fait. Vous allez être mort pour la patrie, ça sera marqué. Vous aurez une tombe peut-être anonyme ou alors un nom sur une liste de noms avec tous les ceux qui sont morts pour la France, morts pour la patrie. Mais on ne ressent pas ce besoin d'aller chercher en fait le corps et de ramener le corps au pays.
Vous dites que c'est une question de culture. Moi, j'ai envie de dire aussi, en vous entendant, et parce qu'on arrive à la fin de cette émission, qu'au fond, vous travaillez avec des morts, avec des os, mais au fond, vous travaillez pour les vivants et vraiment pour les vivants que nous sommes tous. Au fond, c'est vraiment ça qui se cache même pas derrière votre passion à tous les deux et derrière votre travail. Moi, c'est ça qui me touche énormément, c'est qu'en fait, vous travaillez pour nous, pour les vivants.
Voilà, c'est le rôle un peu de tous les archéologues, c'est-à-dire que les gens ont l'image de l'archéologue qui serait plongé dans le passé. Nous, on a tous, je crois, l'envie d'éclairer le présent et voir l'avenir avec les données du passé, c'est-à-dire comprendre notre société avec des faits plus anciens.
Élodie Cabot, pour terminer, vous voulez encourager les jeunes archéologues, il y en a une jeune qui nous écoute d'ailleurs en ce moment de côté de la vitre, mais à venir aussi pour être utile finalement, véritablement, dans des enquêtes judiciaires, dans des enquêtes criminelles. Vous avez envie à la fois que les juges, enfin les magistrats, la police, la gendarmerie fassent appel à vous, mais aussi que des archéologues jeunes viennent vous rejoindre sur le terrain ?
Alors, effectivement, oui, je pense qu'on en meurt d'envie. C'est-à-dire que, comme on l'a répété tout au long de l'émission, la discipline n'existe pas aujourd'hui. Vous l'avez bien dit, on intervient de manière officieuse, entre les deux. On essaye de développer quelque chose. Beaucoup d'étudiants nous sollicitent parce que c'est une thématique qui depuis quelques années, est quand même, je dirais, à la mode et puis se développe. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien leur proposer derrière. Donc, c'est compliqué d'orienter, je dirais, de pousser les étudiants aujourd'hui à se lancer en anthropologie ou archéologie forensique, sachant que derrière, il n'y aura peut-être pas de possibilité de travailler.
Espérons qu'après vous avoir écouté, oui, Patrice Georges, après votre colloque, puis là, on va devoir terminer. Espérons que ça change.
Avant tout, il n'y a pas une spécialité en tant que telle. Il faut d'abord être archéologue. Le mieux, c'est ça. Continuez les études d'archéologie, développez. Quand vous êtes un bon archéologue, vous serez forcément un bon archéologue forensique.
Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct partager votre expérience et votre savoir-faire en archéologie en général et en forensique en particulier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'INRAP et sur ce passionnant colloque archéologie et enquête judiciaire. Le lien est sur notre site. Et puis, vous revenez quand vous voulez parce qu'on n'a fait que commencer à parler de cette extraordinaire discipline. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr vous abonner à notre podcast ou nous retrouver en direct lundi prochain, 14h temps universel, 15h heure de Paris, en compagnie du généticien des populations, professeur au Collège de France, Luis Quintana Murci, qui vient de publier Le peuple des humains, autour de la question comment la génétique retrace nos migrations et nos métissages, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.